Et il est 8h35 dans cette dernière partie des matins d'été. On va faire un peu une sorte de cahier de vacances des matins d'été, si vous le voulez bien, parce qu'on va réviser plein de matières en même temps. On va faire du latin, on va faire des maths, on va faire de la physique, un peu de grec aussi, le tout avec pas mal de disciplines artistiques, de la danse, du théâtre, du cirque, des arts visuels, de la musique, de l'installation. Et j'en oublie certainement tout ça grâce à notre invité Aurélien Bory. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous accueillir. Vous avez deux actualités cet été. La première à Nantes, au théâtre Gralin, on dit Gralin, c'est ça ?
Oui.
Vous proposez jusqu'à la fin du mois d'août une installation. On verra si le terme d'installation vous convient. Hein. Spectacula. Et puis à Paris, depuis hier soir et jusqu'au 2 août, vous avez monté votre pièce. Vous reprenez votre pièce plutôt Sans objet. C'était une création de 2009 qui met en scène deux danseurs et un bras robotisé. Ça se passe au Théâtre de la Cité Internationale dans le cadre du festival Paris Quartier d'été. Alors, je vais redire quelques mots de votre parcours parce que c'est assez éclairant pour votre travail, pour nos auditeurs qui vous découvrent. Donc, vous êtes metteur en scène, chorégraphe. Vous avez fondé la compagnie 111 à Toulouse en 2000. Vous travaillez depuis le départ sur ce qu'on appelle l'hybridation des genres, hein, que le spectateur ne puisse pas reconnaître la discipline ou la forme artistique que vous lui proposez. Vous parlez vous-même, on en parlera tout à l'heure certainement, de théâtre physique. Il faut préciser que vous avez une formation scientifique à l'origine, hein, et vous avez fait des études de physique à Strasbourg, ça a son importance. Puis vous avez travaillé l'acoustique avant de vous diriger vers le Centre des Arts du Cirque à Toulouse. Donc, ce qui nous amène à ce joyeux melting pot qui fait votre talent, votre théâtre, vos installations aujourd'hui. Peut-être commencer par Spectacula. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire en quelques mots ce que c'est que cette installation au Théâtre Gralin de Nantes ?
Oui, d'une certaine manière, j'inverse le point de vue. J'invite les spectateurs à venir sur le plateau du Théâtre Gralin et de regarder les sièges où d'habitude nous sommes assis. Et ces sièges, en fait, je ne les modifie pas, mais je les allume et je les éteins. C'est-à-dire que quand on entre, on voit ces sièges qui sont allumés individuellement. Un projecteur, une lampe par siège qui a exactement la forme du siège. Et donc on a l'impression déjà d'une certaine irréalité, alors que je n'ai rien modifié de la réalité, je les ai juste éclairés. Et ensuite, ces sièges suivent un processus d'extinction avec différents scénarios. Donc l'idée c'était de travailler sur ce double point de vue, ce point de vue inversé où nous sommes sur le plateau, on regarde la salle, et puis on regarde quoi ? On regarde la place au théâtre, et la place au théâtre, c'est-à-dire l'endroit d'où l'on voit, c'est le mot théâtre, l'origine grecque, théatron, l'endroit d'où l'on voit.
Et Spectacula, qui est, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on allait réviser les langues anciennes, Spectacula, ouais. Qui signifie aussi, au pluriel,
voilà, qui veut dire exactement la même
les
chose.
Les places du spectacle.
Voilà, spectacle, exactement. Mmh. Exactement, les places au théâtre. Mmh. C'est la signification de ce mot latin. Moi, j'aimais beaucoup ce mot qui en contient aussi beaucoup d'autres et qui a, donc, et puis évidemment, on pense à spectaculaire dans ce mot-là, et donc j'avais envie de évidemment que le mot spectacle apparaisse. Mais c'était la même signification d'une certaine manière, la question de l'endroit d'où l'on voit.
Quel est le point de départ de ce type de projet ? À quel moment, d'un seul coup, germe dans votre esprit l'idée de se dire tiens, je vais retourner le point de vue, je vais éclairer. Comment ça se construit ?
À vrai dire, il y a une continuité entre ce que je fais avec mes spectacles, avec les pièces sur scène, et puis cette installation. Il y a une continuité. Bon, déjà, c'est une série de rencontres, puisque je suis artiste associé au Grand T à Nantes, ce qui a fait qu'à Nantes, je me suis impliqué d'une manière particulière, avec beaucoup de rencontres, et notamment la rencontre avec Le Voyage à Nantes, Jean Blaise, David Moinard, qui ont vu mon travail, et qui m'ont proposé de faire une installation pour le voyage à Nantes. Et là, il y avait différents sites, c'est une manifestation qui investit toute la ville, donc j'avais le choix entre plusieurs sites, et j'ai choisi l'opéra. Ça m'a semblé intéressant de dire, bah, je vais faire une installation, mais en même temps, je reste avec l'outil théâtre dans mon installation. Ça. Et j'imagine toujours une installation à partir de l'existant. Donc je voulais vraiment, encore une fois, mon seul vocabulaire de cette pièce, c'est la lumière. Et je m'appuie complètement sur l'existant. Il y a aussi le titre Spectacula qui est écrit en néon dans le vestibule, dans le hall, que l'on peut voir de l'extérieur par des baies vitrées. Et le soir, il commence à s'animer, ce titre, ce qui fait littéralement bouger le bâtiment, qui fait danser le théâtre. Donc c'est là aussi, c'est qu'un geste de lumière. Et j'avais envie de proposer quelque chose qui soit de l'ordre du mouvement, c'est-à-dire dans mes pièces, qui s'appuie vraiment sur la scénographie, qui s'appuie sur l'espace. L'espace est toujours en mouvement, j'essaye de faire danser l'espace, c'était aussi le cas avec ces deux installations.
Alors, précisément, transition parfaite pour parler de votre autre actualité, Sans Objet, qui est une création, je le disais, de 2009. Sans Objet, qui est donné en ce moment et jusqu'au 2 août au Théâtre de la Cité Internationale à Paris, dans le cadre de Paris Quartier d'été. C'est donc deux danseurs qui dansent, qui interagissent sur scène avec une machine qui est presque votre personnage principal, j'ai envie de dire. Décrivez-nous un peu cette machine pour
oui,
les auditeurs.
Absolument. C'est vraiment le protagoniste de Sans Objet principal. C'est une machine, c'est un bras articulé 6 axes qui est ce robot industriel qui est arrivé dans l'industrie fin des années 60, essentiellement l'industrie automobile. Et j'ai choisi cette machine parce que c'est le premier robot parmi les hommes, c'est-à-dire que l'idée du robot est très ancienne, mais apparaît fin des années 60 ce prototype-là, c'est-à-dire ce bras articulé 6 axes. Pourquoi ? C'est-à-dire 6 axes, ça permet d'aller en tout point de l'espace autour du robot. Et c'est ce robot qu'on voit apparaître. Donc d'une certaine manière, quelque chose a commencé dans l'histoire entre les hommes et le robot, a commencé à ce moment-là, en tout cas, a commencé à s'incarner à ce moment-là. Donc j'ai eu envie de revenir. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette machine-là, c'est qu'à la fois elle incarne quelque chose d'une sorte de projection, science-fiction, etc., mais à la fois elle est aussi héritière de l'ère industrielle. On voit dans ses formes un peu, on pense au 19e siècle aussi, aux machines un peu, les gros boulons, etc. Donc il y a, et puis aussi dans sa forme, il y a aussi un certain archaïsme. Donc à la fois elle nous projette vers le futur, mais en même temps elle résonne avec le passé, donc elle est un peu hors temps, cette machine, et c'est ce qui m'intéressait, c'est aussi de montrer un peu dans ce dialogue entre l'homme et la technologie qu'évidemment il a, ce dialogue a toujours presque a construit l'homme, c'est-à-dire a toujours été avec l'homme, est né avec l'homme.
On entend derrière un extrait de la musique de votre spectacle. Voilà, une musique très saccadée, très scansée, très mécanique, elle aussi. Cette machine, vous jouez beaucoup, évidemment, sur l'anthropomorphisme, sur l'humanisation. On peut décrire un peu le début de la pièce. Ça commence, elle est cachée par une bâche et vous la faites danser. Vous faites danser juste la forme et on ne sait pas encore très bien ce qu'on va découvrir sous la bâche. Il y avait derrière moi, j'ai vu le spectacle hier soir, il y avait derrière moi une petite fille qui disait à son père, on dirait un monsieur sous un drap. Vous jouez sur cette ambiguïté, vous avez vraiment chercher, mais parfois même jusque dans une sorte d'inquiétude et de malaise dans la personnification de cette machine. C'est ce qui vous intéressait, d'aller la rendre le plus humain possible ?
Oui, d'une certaine manière, il y avait cette humanisation de la machine et cette mécanisation des hommes sur le plateau. Aussi, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'était, il y a quand même plusieurs scènes, elles sont au nombre de 4 exactement dans Sans Objet, où il n'y a que la machine. Donc d'essayer d'imaginer un théâtre sans acteur, ou sans présence humaine plus exactement.
Un théâtre de marionnettes contemporains ?
C'est ça, c'est une sorte de marionnette technologique. Et puis aussi on est vraiment proche de la matière, on est proche de la forme plastique. Cette première scène dont vous parlez, il y a vraiment avec cette matière plastique que le robot finalement tord, que le robot sculpte. Il y a quelque chose de l'ordre de la sculpture cinétique, de la sculpture en mouvement. D'ailleurs, ça a donné l'objet, c'est le cas de le dire, d'une installation que j'ai présentée à la Nuit Blanche l'an dernier. Cette première scène, hein, c'est-à-dire cette la machine qui tord son plastique et qui va être représentée à la Biennale des Arts Numériques là au 104 en décembre-janvier. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup sur scène présenter quand même quelque chose qui est une certaine plasticité, certaine vraiment à la frontière avec l'installation, avec les arts plastiques, avec d'autres formes. Et en même temps, c'est impossible de faire du théâtre, ou très difficile de faire du théâtre avec une machine. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. Et ce sont les acteurs qui, finalement, arrivent, alors qu'ils suivent la machine, mais arrivent à lui donner du jeu. Donc c'était intéressant, mais c'est vrai que quand j'ai démarré ce travail, au départ, j'étais pas sûr de l'aboutir, puisque vous avez une idée, il faut ensuite, pour l'essayer, faire 2-3 heures de programmation, l'essayer, se rendre compte que c'était une mauvaise idée, en avoir une deuxième, et à nouveau 3 heures de programmation. Donc en fait, dans une journée de travail, on arrivait à essayer 2 choses. Et je dis, c'est impossible, ça va jamais jouer. Et heureusement, il y avait cette première scène avec la bâche qui est arrivée assez vite dans le processus de création, et j'ai vu là qu'il y avait matière à faire une installation. Je l'avais jamais faite. Bon, maintenant, c'est chose faite.
La machine, elle est programmée en direct. Il y a un opérateur qu'on aperçoit par moment au fond de la scène.
Oui.
C'est pas de la programmation.
C'est lui qui garde le contrôle du timing. C'est-à-dire, c'est une programmation à 80-90%. C'est-à-dire qu'il envoie la prochaine ligne de programmation. Mais c'est en gardant le timing, il garde finalement le jeu. Et c'est l'interaction justement avec le jeu, avec les acteurs sur le plateau, est vraiment fait comme ça. C'est un jeu en fait avec un marionnettiste qui est Tristan Baudouin, le régisseur de la machine, et qui arrive à jouer comme une marionnette.
Et ce qui est amusant, c'est que cette machine elle-même, qui est donc une marionnette technologique, comme vous le disiez, utilise les danseurs, les comédiens, eux-mêmes à la façon d'une marionnette. Il y a une sorte de mise en abîme du rôle de marionnettiste.
Absolument.
On y voit presque, du coup, si on pousse un peu l'allégorie, la figure du metteur en scène qui prend ses danseurs, qui prend ses comédiens et qui les fait évoluer sur la scène, Aurélien Bory.
Oui, absolument. Il y a ce double rapport à la marionnette. C'est-à-dire, la machine, c'était vraiment ça l'idée. La machine est une marionnette et en même temps, elle manipule les deux acteurs sur scène. Alors, c'était plus ce qui m'a amené à ça, c'était notre rapport à la technologie. En fait, on suit la technologie. Et d'ailleurs, on a d'autres choix que de la suivre. Pour la plupart d'entre nous, on va dire. Peu de gens, voire personne, peut prétendre être devant la technologie, devancer la technologie, que la technologie suit ces personnes, ça. Personne-là, c'est une place que personne aujourd'hui peut revendiquer. Et en même temps, peu de gens peuvent dire aussi non, on vit complètement sans suivre la technologie, c'est-à-dire complètement sur une voie parallèle. Donc en fait, on la suit. Notre capacité, c'est notre capacité de résistance, en fait. Soit on la suit aisément, soit on la suit avec plus de difficultés. Et donc, c'est ce rapport que j'avais envie pour les acteurs. C'est ce que je leur ai demandé de faire pendant la création, de suivre, de prendre aucune initiative.
Ce sont vos danseurs qui se sont adaptés à la machine, en quelque sorte, c'est ça?
Absolument. Mmh. Absolument. Et puis, donc, ça donnait un autre type de jeu, un jeu plus passif, mais intéressant aussi, et surtout intéressant au moment où ils ne suivent plus, de voir où ils s'introduisent dans les failles finalement. Qu'est-ce qui va les distinguer? C'est quand même une rencontre. Ce n'est pas j'ai pas voulu placer ce dialogue vraiment sur un terrain qu'on a déjà vu, hein, entre la machine, parce que beaucoup de choses se sont dites sur le dialogue entre la machine et l'homme. Et donc là, j'avais envie d'être sur un autre terrain, un terrain on ne sait pas s'ils acceptent complètement, s'ils le souhaitent, s'ils résistent. Et c'est ce terrain ambigu qui, à mon avis, notre rapport à la technologie aujourd'hui.
Ce qui fait la beauté et la force de votre travail, hein, sur plusieurs de vos œuvres, enfin sur l'intégralité de vos installations et de vos pièces, Aurélien Bory, c'est ce mélange, pas seulement l'hybridation des formes entre théâtre, danse, cirque, etc., mais aussi le mélange des émotions et des tons que vous nous proposez. Il y a toujours beaucoup d'humour dans vos spectacles, il y a des moments de pure grâce, de poésie suspendue, et puis il y a des moments où on frôle encore une fois, l'inquiétude. Notamment, vous faites à un moment donné clairement référence à 2001, Odyssée de l'espace.
Allô, Carl, réponds, s'il te plaît. Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là ?
Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
Ouvre la porte A.
Voilà, Carl, qui est Al 2000 en version originale dans 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick. Vous êtes allé la chercher, cette... Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à votre public, à vos spectateurs, en allant chercher ces moments où vraiment, hein, il y a une sorte de tension, il y a même des moments où les gens sursautent. Enfin, il y a vraiment une petite tension électrique que vous arrivez à impulser avec ce robot et en allant chercher l'étrangeté, justement, de l'anthropomorphisme.
Ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que, évidemment, c'est une projection, c'est un miroir, et en fait, on y voit à peu près ce qu'on veut. À la fois, c'est fascinant, à la fois, c'est effrayant, à la fois, on sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de projections, et j'ai joué avec ces projections, et aussi les peurs. Il est impossible quasiment, ou très difficile, de faire de la science-fiction au théâtre, sur le plateau. Donc j'avais envie de me lancer et de dire est-ce que je peux donner quelque chose quand même de l'ordre de la science-fiction qui appartient quand même plus à la littérature et au cinéma, mais sur un plateau, est-ce qu'on va vraiment être inquiété à un moment, sortir de cette convention théâtre que l'on sait, c'est du théâtre, c'est le plateau, il y a strictement aucun problème, mais quand même de donner des sensations qui soient de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre de, à un moment donné, quelque chose d'effrayant, quelque chose de la peur. Et en même temps, cette machine, qui est une machine conçue par les ingénieurs, c'est une machine de fierté, on va dire, et de puissance, elle est puissante, elle peut bouger, elle peut soulever des objets lourds, etc. Et j'avais envie aussi de temps en temps de la situer sur quelque chose de plus fragile, de plus gracieux, de plus lent, de plus sensible. Ce terrain-là qui n'appartient pas, ce vocabulaire qui n'appartient pas au monde de la machine. Et j'avais envie d'aller dans cette... Donc à la fois cette sensibilité et à la fois, de temps en temps, bah, quelque chose de plus profond dans la peur... je pense que ces machines, quand même, notre rapport à la machine, est un rapport complexe. Et cette peur existe, et donc j'ai voulu la convoquer.
Cette étrangeté qui m'a rappelé un autre metteur en scène japonais qui s'appelle Horisa Hirata, qui a travaillé avec des robots géminoïdes qui réadaptent des pièces ou des romans comme La Métamorphose de Kafka ou Les Trois Sœurs en version androïde, où on retrouve ce rapport très curieux, ce rapport très complexe entre l'identification et la projection qu'on peut avoir sur des machines et sur des robots.
Oui, dans ma réflexion d'ailleurs sur Sans Objet, j'avais été vraiment très attentif à tout ce qui se faisait notamment au Japon, avec là ces robots qui sont assez impressionnants, qui sont vraiment dernier cri, qui imitent vraiment la forme humaine le plus possible. Le Japon investit beaucoup d'argent dans cette recherche-là sur la robotique, qui sont complètement fans. Il faut savoir aussi, dans la recherche mondiale, un défi est lancé, vous le savez, en robotique, c'est en 2050 d'avoir une équipe championne du monde de foot de robots. Donc ils se sont lancés quand même un sacré défi. Pour l'instant, ils en sont à la course, donc il va falloir qu'ils apprennent bientôt l'amortie de la poitrine. Et donc dans le Japon, effectivement, donc ce metteur en scène qui a fait, mais qui se situe donc du côté dernier cri un petit peu de la robotique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était prendre une machine, mais presque être dans le low tech, c'est-à-dire de revenir un peu à ce départ, ce robot industriel qui est le départ, de faire aussi une sorte de ready-made, c'est-à-dire de le sortir d'un contexte très particulier qui était le contexte industriel. et de le poser sur le plateau, de le sortir, donc de lui faire oublier sa fonction, et étant sans fonction, de le rapprocher de l'inutilité, je dirais, de l'art, et de d'une certaine manière, de l'être humain, donc de l'humaniser. C'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle Sans objet.
Aurélien Bory, merci beaucoup. Sans objet qu'on peut voir jusqu'au 2 août au Théâtre de la Cité Internationale dans le cadre du Festival Paris Quartier d'été. Également dans le cadre du Voyage à Nantes, ne ratez pas l'installation Spectacula au Théâtre Gralin. C'est tout l'été jusqu'à fin août. Et puis on me signale, hein, un auditeur attentif, que c'est à 9000 et pas à 2000. Je me suis trompé de 7000. C'est une petite erreur de calcul. Merci beaucoup Aurélien Bory. On était très contents. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Et je fais une petite dédicace à ma maman qui m'écoute.
Elle est passée.